Bienvenue à tous dans l'émission C'est de la locale. Ce soir, la Mystery Machine est toujours dans l'Orne pour la suite du Mystery Machine Summer Tour. Et pour ce début de semaine, nous sommes tout simplement allés dans le plus beau village de France. Oui, vous avez bien entendu, la Mystery Machine est garée à Saint-Sennery-le-Guéret. Ce village à 15 km du sud-ouest, au sud-ouest d'Alençon, soit à peine à 20 minutes. Ce village d'une centaine d'habitants et d'une superficie de 3,86 km² est complètement exceptionnel. Dans ce village, patrimoine historique, artistique et environnemental se mélangent pour laisser place à un petit havre de paix, complètement magnifique. Nous sommes sous le charme et si vous n'y êtes jamais allé, auditeur de Radio Pulse, eh bien j'espère qu'après cette émission, vous aurez sûrement l'obligation d'y aller tant c'est beau. Pour m'accompagner, on est évidemment avec Tatiana. Comment est-ce que tu vas, Tatiana, aujourd'hui ?
Eh bien, écoute, toujours merveilleusement bien. Sous le soleil, donc c'est super.
Ouais, c'est incroyable. On n'est pas vraiment dans la Mystery Machine.
Oui,
on
c'est
est
sûr.
À côté sur une table de pique-nique.
Exactement.
Et on se régale.
Et toi, comment tu vas ? Je t'ai pas demandé.
Eh bien, après le Escape Festival, le gros festival de techno hardcore. Très bon, on s'est bien reposé.
Ouais,
on s'est
bien
reposé. Je te pose la question habituelle.
Dis-moi
comme chaque
tout.
Jour, comment appelle-t-on les habitants de Saint-Sennery-le-Guéret ?
Ça serait très long si on disait Saint-Sennery-le-Guéret-Zin.
Donc... on dit les Girois et les Giroises,
ah ouais,
les invités
okay.
qui sont autour de moi. Est-ce que j'ai bon ? C'est ça, c'est bon. Ouais. Eh bien, vous venez peut-être de l'entendre, c'est notre premier invité qui est déjà là. Partons maintenant dans l'émission C'est de la locale, dans le plus beau festival, le plus beau village de France, qui aura peut-être un jour le plus beau festival de France, Saint-Sennery-le-Guéret, tout de suite sur Radio Pulse dans la Mystery Machine.
Découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Richard Marquet, bonjour.
Bonjour Simon.
Vous êtes le premier invité de cette émission à Saint-Sennery, comment ça va ?
Eh bien, plutôt bien, il fait beau, tout. Et puis, on a de la chance d'être dans un plus beau village de France et petite cité de caractère, donc c'est forcément une joie d'être là.
Bah, c'est sûr, tu es maire et habitant depuis toujours à Saint-Sennery. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce village ?
Alors, je pense qu'on est très chanceux d'habiter ici. On a un cadre de verdure qui est... idyllique, on a un patrimoine qui est remarquable, on a des gens qui sont formidables dans la commune, on a des artistes et puis des gens de talent qui est autour de la table, là, vous verrez. Donc forcément, c'est une joie d'être ici.
Et vous, en tant que maire, c'est quoi vos missions au quotidien pour un petit village, justement, comme tu l'as dit, où il y a à la fois une valorisation du patrimoine qui doit être faite, mais aussi environnemental ? C'est quoi tes missions du coup ?
Ah bah tout, comme tous les maires, on a forcément tout ce qui est légal. Donc je vais passer un peu tous les détails, mais forcément ça va de la voirie aux travaux.
Ah oui.
Ça. Donc ça c'est le côté qui est moins sympa. Mais après forcément on a tout ce qui est mission touristique. Quand on est dans un plus beau village de France, forcément on fait partie, on est un acteur essentiel de l'aspect touriste dans l'Orne. On essaie de travailler forcément aussi sur la culture. Donc là, on a aussi des associations qui sont là et on essaie de s'entraider les uns les autres, de trouver des petites ficelles pour que ça marche bien, et ça marche bien d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est du bonheur. Et puis quand on est donc maire et on représente ce village, donc on le représente au niveau du département, de la région. On le représente aussi donc dans les assemblées des plus beaux villages de France et des petites cités de caractère.
Il y a des assemblées de ces plus beaux villages de France ?
Eh oui, on est une association, donc forcément on a des assemblées comme toute association.
Mais ça veut dire que vous êtes combien dans cette, ça représente tous les plus beaux villages de France ?
Voilà.
Bah, de France, oui.
Donc forcément, Saint-Sennery est le plus beau.
Oui,
forcément.
J'en suis sûr.
Mais en tout, en fait, on est à peu près 160 plus beaux villages de France.
Et ça apporte quoi d'avoir ce label ?
Alors les labels, pour moi, c'est des moteurs, en fait. C'est des moteurs, donc des moteurs touristiques, mais c'est aussi des moteurs, en fait, dans les choix et dans les stratégies, en fait. Donc forcément, avoir un label, on en est fiers. Parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir un label plus beau village de France ou petite cité de caractère, mais ça rend en fait une stratégie politique pour se dire demain qu'est-ce qu'on va faire ici et qu'est-ce qu'on a envie d'y faire et qu'est-ce qu'on veut que ça devienne encore. Voilà.
Et comment on fait justement pour garder ce label-là ?
Alors,
est-ce que par exemple les vieux bâtiments qu'il y a autour, faut forcément les préserver ? pour, pareil pour les constructions, pour les travaux, tu dois faire face à plein d'aléas.
Voilà, donc ça fait partie du jeu. Donc quand on est dans un cadre patrimonial comme le nôtre, avec des monuments historiques, donc chaque rénovation, chaque projet, en fait, ça va se faire en lien donc, avec l'architecte des bâtiments de France et avec les contraintes qu'il peut y avoir. Mais ça, c'est plutôt un atout, en fait. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui est un inconvénient, c'est un atout. Parce que derrière, en fait, ça oblige d'avoir des choses de qualité qui se font. Et ça, c'est plaisant, en fait.
Mais il y a 100 habitants, il me semble, un petit peu plus.
Alors, il y a beaucoup plus que ça, on est 120.
120, ah oui.
Ouais. 20% de plus, c'est énorme.
Est-ce que ton objectif, c'est d'attirer, par exemple, les familles à venir vivre à Saint-Sennery, ou alors c'est plus de garder ce côté village de caractère ?
Alors, on est forcément pour avoir des familles sur le village. On continue à y travailler parce que ça ne nous intéresse pas forcément d'avoir que des gîtes et d'être forcément une cité de passage. Mais c'est pas toujours facile, quoi. Faut se rendre compte que on est un village rural. Derrière, faut trouver quand même du travail. On a un immobilier qui va être un petit peu plus cher que dans un village d'à côté. Mais avec aussi plus tard à la revente un immobilier qui vaut plus cher aussi. Donc, mais pour un jeune couple, c'est un peu compliqué. Mais on en a quand même quelques-uns qui s'installent, dont Camille par exemple qui est là. On a Héloïse qui est à côté, qui va bientôt aussi intégrer le village pour un autre projet. Et puis il y a quelques jeunes en fait qui sont quand même ici.
Et comment on fait vivre un village comme ça l'hiver ? Parce que l'été, je l'imagine bien, c'est très touristique, mais l'hiver, comment on fait vivre ça ?
L'hiver, c'est génial en fait, on se retrouve entre nous. On l'a pour nous, on a notre plus beau village. Donc non, c'est plutôt sympa. Après, ouais, on fait d'autres choses, on organise des choses pour les Girois. Et puis, c'est une autre période. Moi, j'aime bien cette période-là aussi.
Sous la neige, Saint-Sennery, ça doit être incroyable encore plus.
Ah bah là, faut demander aux enfants qui sont là. Ils font tous de la luge dans le près de la chapelle. Là, il nous manque juste les remontées en fait l'hiver.
Pour faire une petite station, une petite piste verte.
Exactement.
Bah, parlons-en de cette chapelle. C'est quand même incroyable d'avoir ça ici, mais c'est pas que le cœur touristique. Il y a aussi une fontaine miraculeuse.
Ah ouais, ça c'est toutes nos légendes. En fait, ici, on a un paysage donc d'histoire, mais de légendes aussi. Donc, on a le Saint-Sennery. En fait, c'est un moine qui est venu d'Italie dans les années 600 en fait, qui est arrivé ici et puis qui a trouvé l'endroit merveilleux comme nous tous et qui s'est dit tiens, je vais essayer d'évangéliser cette région et puis on va essayer de faire quelque chose. Et donc quand il est arrivé ici en fait, il était avec un de ses collègues Flavard qui avait très très soif et en fait ils se sont mis à prier auprès de la chapelle et une source est apparue. Et donc cette source est forcément magique puisqu'elle guérit les gens qui ont des problèmes de vue.
Ça marche vraiment ?
Bah, évidemment, j'ai pas de lunettes, regarde.
Tu portes des lunettes, ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu n'en as jamais vu en fait.
Mais justement, par rapport à cette chapelle, est-ce qu'il y a eu des histoires vraiment décrites autour de cette chapelle ?
Alors sur la chapelle, on a encore deux autres légendes en fait. On a une légende en fait avec la statue donc du saint qui est dans la chapelle et qui a un petit signe distinctif puisqu'en fait il y a des petites aiguilles qui sont tout autour et quand on pique une aiguille dans la robe du saint, enfin les femmes qui piquent une aiguille dans la robe du saint, si l'aiguille tient dans l'année, en fait ces femmes se marieront dans l'année qui vient.
Pareil, ça marche.
Évidemment, on a plein de... là pour le coup, on a plein de personnes qui viennent et qui nous disent « Oui, j'ai planté une aiguille et je me suis marié. »
Ah donc ça marche.
Évidemment.
Si vous cherchez à vous marier, vous savez où aller. Il y a aussi une petite légende autour des abeilles, il me semble.
Ouais, il y a une légende sur les abeilles en fait qui est à l'église. Donc à l'église, on a un nid d'abeilles qui est dans un mur, qui est là depuis la nuit des temps de cette église. Et en fait, pendant les guerres de 100 ans, il y a des cavaliers qui ont voulu rentrer dans l'église et qui ont maltraité l'église. Et les abeilles, pour protéger le village et ainsi de suite, ont chassé ces manants. Et donc, ils sont tombés dans la rivière et ils se sont noyés. Les abeilles restent ici depuis la nuit des temps.
Les abeilles 1, les ennemis 0. Incroyable.
Exactement. Voilà.
Toi qui as vécu depuis ton enfance à Saint-Sennery, comment est-ce que tu as vu le village évoluer au fil des années ?
Alors, il a quand même pas mal évolué dans le passé. Donc, forcément, le fait d'arriver dans les années 80, plus beau village de France, ça a été un changement de stratégie, puisque à l'époque, on était jolis, on va pas dire le contraire, mais en fait on avait forcément les lignes électriques qui étaient visibles. On avait un village qui était derrière nous, il y avait un pavillon blanc, il y avait il y avait 2-3 erreurs qui étaient là. Donc en fait au fur et à mesure du temps, en fait les élus se sont posés des questions et ont commencé à travailler justement pour améliorer tout ça. Le pavillon a disparu, le centre-bourg a été revu en pavé, il y a eu beaucoup de choses quoi. Il y a l'église qui a été rénovée. Parce que l'église, moi, dans mon jeune temps, les peintures ne se voyaient pas. Donc dans les années 80-90, ces peintures ont été remises à la vue de tout le monde. Quoi.
C'est un label qu'il va falloir garder, plus beau village de France. T'as pas peur de le perdre ?
Non.
Non.
Pas du tout. Non, pas trop, puisque dans notre stratégie, je pense qu'on est... On est plutôt carré. La dernière fois, donc c'était cette année où on a été relabellisé, on n'a aucune remarque. Quoi.
Ouais, donc, c'est des critères qu'il faut avoir,
voilà.
Et qu'il faut continuer
voilà.
de garder.
Voilà.
Et comment justement la ville permet de s'engager dans la transition écologique et de garder cette protection environnante ?
Alors déjà il y a déjà on est Natura 2000, donc forcément ça aide aussi. Je pense qu'il y a aussi tous les acteurs du village. En fait, on est tous concernés par ce. Et on n'est pas que concernés, en fait, on est tous acteurs et tout le monde est plutôt fan de ce village. Donc on a toute une équipe de bénévoles qui fait par exemple tout le fleurissement du village. Donc ça, on voit ça pratiquement nulle part. Ils y passent un mercredi tous les 15 jours et ils sont vraiment attachés à ça, quoi. Donc c'est top, quoi.
Merci beaucoup, Richard Marquet, maire de Saint-Sénery, d'avoir été avec nous dans la Mystery Machine. En tout cas, à côté, mais en tout cas, surtout à Saint-Sénery. Tout de suite, on passe à une petite pause musicale avec un groupe qui est déjà passé à Saint-Sénery. C'est Soul and Sal avec le morceau Denise sur Radio Pulse.
Elle voulait qu'on l'appelle Denise. Dans sa chemise de bain des mises de main de nuit, je serai
si loin de vous.
Elle voulait qu'on l'appelle Denise. Vous me voyez, là vous voyez à ses genoux,
non, pas du tout.
Des mille la chemise, c'est le mise, c'est mon boulot de gigolo rigolo.
Pas trop.
J'ai pas de veine, je suis vénal, je travaille.
Ces dames au fond d'un lit ont l'air de leur 20 ans.
C'était le morceau Denise du groupe Soul and Sal. La Mystery Machine est toujours garée à Saint-Céneri-le-Guéret. Nous accueillons une deuxième personne dans cette Mystery Machine, Patrick Boulot. Bonjour.
Bonjour.
Tu es Gérois, toi aussi ?
Alors, je suis à moitié Gérois parce que j'habite l'autre côté du pont et comme la Sarthe fait un méandre, en fait, je change de département et même de région parce qu'on est sur la Sarthe. Mais bon, je suis à 10 mètres près, on est Gérois.
C'est vrai qu'il y a un pont qui sépare littéralement la Sarthe et la Normandie.
Voilà, et on a même un troisième département avec la Mayenne de l'autre côté puisque le méandre inclut Saint-Céneri. Et d'un côté, donc, la Sarthe et de l'autre côté, la Mayenne.
Est-ce que des fois, il y a des petites tensions du fait que tu habites à côté ?
Absolument pas.
Moi, tout le monde est ami ici.
Oui, tout le monde se connaît.
Et ça, c'est beau. Patrick, tu es artiste, mais tu es aussi vice-président des Amis de Saint-Céneri.
Tout à fait.
Et c'est vrai que quand on regarde autour de la table, il y a plein de personnes qui sont venues. Donc, on se dit que tout le monde est copain, Saint-Céneri. J'aurais envie de te demander, il y a combien d'amis dans cette association des Amis de Saint-Céneri ?
Dans l'association, on est nombreux, puisqu'on organise à la Pentecôte régulièrement, c'est la 38e édition cette année, les rencontres de Saint-Céneri.
Qu'est-ce que c'est ces rencontres ?
Alors, les rencontres, ce sont des rencontres artistiques. Donc, les gens, des artistes postulent, ça peut être des photographes, des peintres, des graveurs, des sculpteurs. On sélectionne 25 artistes, et là, ce qui est formidable, c'est que les gens jouent le jeu dans le village, puisqu'ils vont nous prêter un lieu, alors par exemple une grange, une cave qu'on va aménager, et puis on va recevoir ces artistes pendant 3 jours. Et là, on bloque le village carrément, et on a à peu près 8 à 10 000 personnes tous les ans. Donc c'est un gros succès régulier tous les ans à la Pentecôte.
Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup dans ce festival ?
Mais l'idéal, c'est une rencontre, ça s'appelle les rencontres de Saint-Céneri, donc c'est rencontres entre artistes qui viennent de tous les coins de la France. On a des gens de Lille, des gens de Bretagne, du Sud, enfin, ça dépend des sélections, mais c'est vraiment national. Et puis l'idéal, c'est de rencontrer le public, va à la rencontre des artistes.
Et justement, après ces rencontres, comment, à partir de ces rencontres, vous soutenez les artistes ?
Alors nous, on les soutient parce que déjà, on les accueille, on prend juste un pourcentage sur leur vente, c'est la seule chose, mais on les nourrit. On se débrouille pour que leurs travaux soient mis en valeur dans le village. Et c'est là que les gens sont fantastiques, hein, puisqu'on est un petit village, mais on se retrouve quand même à 50 bénévoles ce jour-là.
Oh.
Parce qu'il faut les nourrir, il faut les accueillir. Les gens qui nous prêtent les lieux, je les inclus dedans et je les remercie d'ailleurs. Et puis la mairie qui joue le jeu, le département joue le jeu, la communauté de communes urbaines d'Alençon aussi, avec les subventions qui tombent régulièrement. Et ça permet d'avoir vraiment un... Donc les gens vont pouvoir découvrir le village et éventuellement, en plus, acheter aux artistes des œuvres. C'est le but aussi.
Incroyable. 50 bénévoles sur les 120 habitants. Alors, si mes calculs sont bons, ça représente 42% de bénévoles.
Alors, soyons honnêtes, tout le monde n'est pas du village. On a des amis artistes qui sont venus les années précédentes, qui viennent quelquefois nous donner un coup de main, qui rentrent dans l'association. Donc ça, c'est un truc qui marche bien. Je vous dis, 38e édition.
Incroyable. Mais c'est vrai que Saint-Céneri-le-Guéret, pour le coup, c'est un vrai village où il y a eu une vraie histoire les artistes.
Tout à fait. L'histoire commence au 19e siècle. Hein. Auguste Boulay-Malassis est l'éditeur de Charles Baudelaire, c'est pas n'importe qui. Donc il va découvrir Saint-Céneri et il va faire venir ses amis. Et on vient d'inventer le tube à essai qui va permettre aux artistes de peindre sur le motif et non plus dans l'atelier. Ça, c'est important.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on va pouvoir peindre, poser son chevalet au bord de la rivière et peindre directement, ou peindre l'église, peindre la chapelle, peu importe. Et avant, on ne pouvait pas. Avant, on fabriquait ces mixtures dans l'atelier. Il était impossible de se déplacer. Et donc, de nombreuses figures sont arrivées ici, notamment le plus connu, c'est Eugène Boudin, évidemment, qui a peint quand même 5 toiles sur Saint-Céneri, notamment l'église et le pont. On a aussi Camille Corot qui est passé. Pissarro est passé. Il a peint un peu plus loin les bords de Sarthe. Et puis, plus récemment, dans les années 50, Bernard Buffet qui a peint la chapelle. Pas sur le motif, dans son atelier, mais quand même.
Buffet est passé à Saint-Céneri.
Tout à fait. Et alors, j'ai oublié les deux grandes figures, qui sont un peu moins connues, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est Paul Saint. Paul Saint, c'est le portraitiste officiel de la Troisième République. Donc, c'est vraiment un personnage connu sur Paris. Tout le monde veut faire se tirer le portrait par Paul Saint. Et il va venir régulièrement avec son ami et élève Marie Renard. Et ces deux personnages vont occuper Saint-Céneri, j'allais dire chaque été, jusqu'en 1908, jusqu'à la mort de Paul Saint.
Et c'est assez génial, puisque quand on va par exemple à la petite chapelle, on peut voir un petit écriteau où on voit les différentes façons dont les peintres ont peint cette chapelle, et c'est assez exceptionnel.
Ah, tout à fait, hein. c'était, je pense qu'il y avait une bonne ambiance, parce qu'ils venaient aussi avec des amis artistes. Parmi eux, il y avait un photographe, on a la chance d'avoir des photos de l'époque qui datent de 1890-92. C'était Veillon, le fils d'un des peintres d'ailleurs, qui venait. Il y avait des musiciens aussi. Arpigny, entre autres, était artiste à la fois peintre et à la fois musicien. Donc, et on retrouve, ce qui est assez fantastique, on a deux lieux merveilleux. On a parlé des lieux de Saint-Céneri, mais n'oublions pas l'auberge des Sœurs Moisy. Donc les Sœurs Moisy, c'était deux personnes qui accueillaient dans leur restaurant ces artistes. Et on retrouve sur les murs, à l'étage, des peintures murales qui ont été exécutées à l'époque, au 19e siècle et début 20e. Et on retrouve aussi la fameuse chambre des décapités. Alors, attention, rien de morbide.
Ça fait peur, c'est quoi ça?
Non, ça fait peur, mais en fait, pas du tout. En fait, on prend le profil de la personne avec une bougie. On projette ce profil sur le mur et avec au fusain, ils ont retranscrit le profil des personnes. Et on a 66 portraits comme ça dans la salle à voir. Ça, c'est vraiment assez unique.
Dont un chien.
Dont un chien.
Important, le chien. Oui, donc ça ne fait pas si fort que ça.
Non. C'est à voir. C'est un des lieux à voir aussi.
On peut le visiter,
Alors, on peut le visiter, tout à fait, par le biais de l'office de tourisme, qui occupe d'ailleurs l'auberge des Sœurs Moisy.
Ah, c'est donc là.
Donc, nous, on est en lien, donc, la commune, avec l'OT d'Alençon. Et donc, c'est l'OT d'Alençon qui fait visiter qui fait office du tourisme sur Saint-Céneri. Et donc, il propose des visites les après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sur réservation, voilà, ou sans réservation, mais ça peut être compliqué des fois.
Et petite particularité en plus, on a un restaurant qui s'appelle l'Auberge des Pins, c'est pas pour rien. Et sur les murs, on retrouve aussi des peintures de Marie qui sont vraiment magnifiques, qui sont encadrées, protégées. Et à l'étage, alors c'est en privé, là ça ne se visite pas, mais à l'étage, il existe 20-25 peintures murales qui ont été faites par les artistes à l'époque.
Est-ce que vous savez où sont parties toutes ces peintures qui ont été faites à Saint-Céneri? Est-ce qu'on peut en retrouver par exemple à Paris ou dans d'autres musées?
Alors, il y en a certaines qui sont effectivement au musée d'Alençon, ça on connaît. Sur Rouen, il y en a aussi. Mais la plupart ont été achetées par des collectionneurs. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir Dominique Hébert, qui était girois et qui était un passionné de peinture et qui a acheté et collectionné. Malheureusement, il nous a quittés cette année. Ça, c'est bien dommage parce que c'était vraiment une personne sensationnelle parce qu'il nous prêtait ses œuvres pour faire des expositions aussi durant l'année.
Okay. Et on a aussi beaucoup d'habitants qui ont une richesse picturale chez eux. Il y a vraiment énormément de tableaux. Et les rencontres des peintres favorisent ça aussi. Et en fait, quand on va chez les habitants de la commune, en fait, on a des petites galeries d'art. En fait, chez un peu tout le monde, en fait, c'est assez amusant.
Il y a même des galeries d'art un petit peu partout dans toute la ville. Quand on se balade, on a l'impression que tout le monde peint.
Exactement.
Voilà, on a 6 ou 7 artistes qui sont installés régulièrement sur le village. Donc je peux citer Alexandre Goss, qui est au-dessus de la mairie, qui fait un travail impressionniste, on va dire, et qui est vraiment remarquable. C'est un autodidacte en plus. Je conseille à tout le monde d'aller visiter son atelier parce que c'est vraiment un talent fou, quoi.
On a Patrick Boulot dans le centre-bourg.
aussi.
Patrick, toi aussi tu peins?
Oui, je peins, oui, tout à fait. Je suis installé depuis 4 ans. J'ai la chance d'avoir pu ouvrir mon atelier à l'autre côté du pont, mais on va dire, je me sens girois toujours, absolument. Et puis on a d'autres artistes, je pense à Serge Tourneur, notre sculpteur. Je ne veux pas ne pas citer Christian Malézieux, qui nous a quittés aussi, qui avait 94 ans, et qui a fait un remarquable chemin de croix dans l'église. Et le buste de Paul Saint aussi, qui est visible à côté de la taverne giroise.
Wow.
C'est noté.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours artistique?
Mon parcours artistique, il est simple. Je ne me considère pas non plus comme un professionnel dans la mesure où, avant, j'étais enseignant. Je gérais plutôt les arts plastiques, c'est vrai.
Pas très loin, finalement.
Mais pas très loin. Mais là, depuis que je suis en retraite, donc j'ai la chance de pouvoir m'exprimer à plein temps, j'allais dire. Donc, moi, mon parcours, il est simple. Je suis autodidacte. Mais on n'est jamais complètement autodidacte, on a toujours des références. Oui. Moi, j'ai eu la chance de voir les ateliers de différents acteurs sur Saint-Céneri. Je pense à Jean-Luc Chabot, je pense à Bernard Courat, qui habitait sur Moulins, mais tout près d'ici, à 2 km, qui étaient vraiment des pointures. On a eu Brice Malézieux, qui était sur le village aussi. Donc, j'ai aux abords de ces personnages, là, moi, j'ai pu apprendre des choses et puis me lancer un jour.
Est-ce que justement vous vous inspirez de Saint-Céneri-le-Géré, qui lui-même a un tableau finalement ?
Alors moi, c'est un peu particulier. Moi, j'ai un thème précis. Donc, je travaille au couteau et à l'acrylique et je peins
au couteau
à spatule, si
oui,
vous préférez.
Ah oui,
pas les couteaux pour manger. Hein.
Sinon, tu défonces la toile.
Et donc, c'est sur la thématique des bouteilles. Et les bouteilles se transforment aussi en personnages.
D'accord.
Donc, depuis 2008, j'exploite ce thème et je le garde, c'est ma marque de fabrique.
Est-ce que c'est un thème plutôt porté pour l'écologie avec les bouteilles
ou... Alors, ça peut aussi, parce que...
l'écologie.
À travers ces personnages, par exemple, là, j'ai défendu justement l'Australie qui brûlait. J'ai fait une toile assez grande, où les deux personnages constatent les dégâts, malheureusement. Et puis, j'ai aussi ma perception du monde à travers mes toiles.
D'accord.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick, de nous avoir répondu sur Radio Pulse. Tu es artiste. Donc, est-ce que tes toiles, après, tu les fais encadrer avec Héloïse Nice? Bonjour, Héloïse.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Je vais très bien, je suis très bien, on est très bien tous ensemble.
Alors, quand Richard m'a parlé de ton métier, au début je ne comprenais pas trop. Tu es restauratrice de cadres et doreuse.
Doreuse, oui. Alors, on dit doreuse à la feuille, ornemaniste, c'est le
ornemaniste.
Alors ornemaniste, c'est parce qu'on travaille sur les ornements en fait. Donc normalement, on peut dessiner des ornements. Mais doreuse, donc je restaure des cadres, des miroirs, tout ce qui est en bois doré à la feuille d'or.
Incroyable.
Est-ce que ça appartient aussi à tout ce qui était avec les moulures, toutes ces choses?
Oui, aussi, on peut dorer des boiseries, par exemple, dans les châteaux, ou en extérieur, des ferronneries, des balcons, des choses comme ça.
Ah oui, donc en fait, dorer, c'est le cadre qui est vieillissant, et toi, tu le redores quelque part?
Pas vraiment, parce que le but, c'est de le restaurer, enfin, de le redorer le moins possible, c'est de travailler en conservation-restauration.
Oh, d'accord.
Donc, c'est de conserver un maximum de son état d'origine et de venir après redorer un minimum.
C'est de donner une seconde vie.
Oui, voilà, c'est ça.
Okay.
Et le but, si j'ai bien travaillé, on ne voit pas que je suis venue le restaurer, en fait.
Génial.
Il faut lui redonner un peu de la lumière, mais il faut qu'il retrouve sa patine un peu d'origine. Et voilà, c'est la subtilité.
Mais comment t'en es été venue pour de faire ce métier ?
Alors, quand j'étais petite, j'avais une passion pour le château de Versailles. Et j'ai vu un reportage à la télé quand j'étais petite sur le château de Versailles. Et après, je voulais être restauratrice de peintures murales romaines. Donc, c'était la restauration, mais dans l'archéologie, parce que mes parents font de l'archéologie. Et puis, je me suis rendu compte que l'archéologie, je ne voulais pas en faire mon métier. Et je voulais faire un métier manuel, vraiment artisanal, travailler avec mes mains, créer des choses. Et j'ai repensé... au reportage que j'avais vu sur la dorure, je me suis dit que c'était bien parce que la dorure, ça permet de toucher toutes les époques. Parce que c'est une technique qui existe depuis l'Antiquité, en Égypte, sur les statues grecques, il y avait de la dorure aussi. Puis ça permet de toucher à toutes les époques en fait, du Moyen-Âge, Renaissance, puis bien sûr Versailles, il y a plein de dorures à Versailles.
Et quels sont les outils, les produits que vous utilisez ?
Alors les outils, ils n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge aussi. C'est difficile à expliquer sans avoir les objets, mais j'ai des pinceaux avec beaucoup d'animaux morts, des poils d'écureuil, des poils de martre.
Donc on ne peut pas utiliser des pinceaux avec des poils synthétiques?
Non, ça fonctionne pas.
D'accord,
et chaque étape a un pinceau, une forme et des poils d'animal différentes.
Oh, d'accord.
Donc, c'est un métier ultra artisanal pour le coup, puisque c'est des traditions qui se transmettent un peu d'année en année. Toi, par exemple, comment est-ce que tu as appris ce métier-là?
Alors, moi, j'ai d'abord fait l'école du Louvre parce que je voulais faire apprendre l'histoire de l'art et puis faire l'archéologie. Et après, donc, j'ai bifurqué vers un CAP, donc en dorure à la feuille pendant 3 ans dans une école qui est à Paris, qui s'appelle l'école de la bonne graine, c'est le CFA de l'ameublement et du décor intérieur, qui forme les tapissiers, les encadreurs, les doreurs, les ébénistes. Et donc pendant 3 ans, j'ai fait ça en alternance, comme vous, en alternance, ce qui est très formateur parce qu'on a les cours à l'école et on est en entreprise le reste du temps.
Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené après à Saint-Céneri ?
Oh, bah, on a quitté Paris avec mon compagnon et quand nos enfants allaient naître, on s'est rapproché de ma famille qui est en Picardie, c'est un peu loin, mais de sa famille à lui qui est à côté d'Alençon. Et donc on a trouvé, j'habite pas Saint-Saint-Denis, j'habite à Moulins-le-Carbonel de l'autre côté de la rivière aussi.
Aïe.
Mais je viens depuis toujours avec mes enfants, on vient se promener à Saint-Saint-Denis.
Et est-ce que vous faites des sessions de formation pour transmettre votre savoir?
Pas encore, parce que mes enfants sont en bas âge et c'est compliqué d'être entrepreneur, maman, de gérer tout, donc j'attends qu'ils grandissent un peu, qu'ils soient un peu plus autonomes pour après faire des stages ou avoir quelqu'un en apprentissage. Un jour j'aimerais bien former.
On peut bien croire que ça doit être un emploi du temps un petit peu corsé. Ouais,
mais du coup vous êtes combien, j'imagine, parce qu'on n'entend pas forcément parler
combien de doreuses en France?
En France je sais pas trop.
Est-ce que c'est expert finalement?
Oui, un petit peu, parce qu'en plus les formations avant c'était en 3 ans, moi quand je l'ai fait il y a 20 ans, maintenant c'est en 2 ans et maintenant on privilégie les formations payantes en 1 an. Donc, le savoir-faire va finir par se perdre, donc il faut continuer à le faire perdurer. Et en France, on est peut-être un ou deux par département. Il y a beaucoup d'ateliers sur Paris aussi, des grands ateliers qui font les gros chantiers.
Mais justement, ces chantiers-là, qui est-ce qui vous les donne? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un musée qui vient vous voir avec plusieurs tableaux et il vous demande si est-ce que vous pouvez les dorer, etc.?
Alors moi, à mon échelle, c'est plutôt des particuliers, mais je travaille en partenariat avec d'autres artisans d'art, donc des restauratrices de tableaux. Donc moi, je ne touche pas aux toiles, mais elle s'occupe des toiles et elle propose aux clients, s'ils ont besoin, s'il y a besoin, de restaurer les cadres et donc je me charge des cadres.
Et ça prend combien de temps? Lorsqu'on te donne un cadre après?
Ça dépend, ça peut être juste une petite retouche très rapide ou alors on en discute justement pour voir s'il faut faire une conservation, donc on garde l'état d'origine, soit il faut venir tout redorer parce qu'il n'y a pas le choix, ça a été très abîmé, il n'y a plus de dorure d'origine. Enfin, voilà,
est-ce que tu as le souvenir d'un cadre justement qui était complètement abîmé et que tu as doré et tu t'es dit là j'ai fait du bon boulot là?
Bah, récemment, l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir été choisie par la DRAC pour restaurer un cadre de la cathédrale du Mans, donc un cadre de 2 mètres sur 3, mais mon atelier est trop petit, donc je pouvais pas le restaurer chez moi, donc j'ai loué un atelier ici à Saint-Saint-Denis. Et là, oui, bah, j'étais contente, il était vraiment dans un état dans un très mauvais état, il y a eu un dégât des eaux, tout le bas, il n'y avait plus rien, plein d'ornements qui manquaient, et donc je l'ai restauré.
Ça t'a pris combien de temps?
3 mois, je suis restée. Trois mois ici. Ouais, bah pas tous les jours, parce que j'ai d'autres choses en parallèle, des plus petites choses. Donc, mais en gros, ça s'est étalé sur... Comment?
3 mois, parce qu'elle aime bien être ici.
Oui, en fait. Bah j'étais bien. Ce qui était bien, c'est que chez moi, je suis toute seule dans mon atelier. Et en fait, au bout d'un moment, on est tout seul. Alors c'est important parce que pour se concentrer. Mais là, j'étais heureuse parce que justement, j'ai pu rencontrer les Girois, que je remercie de leur accueil, vraiment. Et puis les gens de passage qui sont venus, qui ont vu mon métier. Et j'ai pu expliquer mon métier, parce que j'adore expliquer mon métier, c'était l'occasion de m'ouvrir aux gens et de voir que j'avais de la chance de faire ce métier et de pouvoir en parler.
Et on l'a dit, il y a plein d'artistes à Saint-Saint-Denis, est-ce que des fois tu leur donnes un petit coup d'aide?
Ben, peut-être, on en a parlé avec Alexandre justement de travailler sur la dorure sur toile, donc c'est pas encore fait, mais voilà.
Peut-être un jour.
Oui.
Alors Héloïse, elle est un petit peu humble parce que ce grand tableau, elle a quand même gagné un très grand prix.
Bah, et il fallait nous le dire.
Elle veut pas le dire, mais quand même, elle a gagné.
On est très fiers de vous.
Très très grand.
Oui, j'ai gagné le concours régional des ateliers d'art de France, donc pour section patrimoine en mai. Et j'ai gagné le concours national aussi ensuite pour ce cadre.
Bravo.
Merci.
Tous les auditeurs de Radio Pulse te disent bravo. Et justement, toi qui du coup, par ce prix, tu as un savoir-faire qui est quand même exceptionnel, il faut que ce savoir-faire il perdure. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a par exemple moins de commandes où les gens te demandent de moins restaurer? Parce que vu que les tableaux vont tous vieillir au bout d'un moment, forcément il y aura plus de tableaux à redorer.
Non, j'ai plein de travail, j'ai plein de gens qui m'appellent, ouais. Et puis pour des collectionneurs par exemple, et puis des gens qui ont leur collection familiale et qui veulent le faire restaurer, et on discute justement de est-ce qu'on le redore entièrement ou pas. Enfin, voilà.
Du coup, tu penses que c'est un métier qui tend à se développer aussi?
Se développer, non, je crois pas. C'est des métiers comme beaucoup de métiers d'art qui sont on est un peu des derniers dinosaures, parce qu'il y a une belle politique de mise en valeur, mais concrètement, voilà, il faut quand même se battre et pour les faire perdurer, et puis pour pouvoir avoir des apprentis aussi dans le futur, voilà, et transmettre pour que ça se perde pas.
C'est ça. Et justement, comment vous voyez l'avenir de ce métier qui utilise des une technique traditionnelle Et du coup, vous devez en même temps coexister avec des techniques plus industrielles. Oui. Comment
Et ben, c'est toutes les questions qu'on se pose en tant que restaurateur et artisan d'art, c'est de faire perdurer, qu'on ne devienne pas du folklore aussi, qu'on qu'on soit pas, parce qu'on voit souvent des reportages qui montrent la partie, par exemple, de la dorure où c'est posé feuilles, c'est très beau. Mais à côté de ça, c'est des métiers très physiques où je passe mon temps à poncer. Enfin, il y a beaucoup de travail de décapage, de choses très physiques avant. Et il faut pouvoir montrer tout ça justement. Et après transmettre, et donc pour ça il faut avoir assez de clientèle pour avoir un apprenti aussi, enfin, voilà. Donc j'espère, je vais me battre pour que ça perdure.
Tu ne seras normalement pas remplacé par l'IA.
Non, ça c'est un soulagement, ils ne pourront pas me remplacer, ils ne remplaceront pas mes petits pinceaux en poil d'écureuil et de martre.
Peut-être nous, Tatiana, ils vont nous remplacer. En attendant, je peux parler et je peux lancer le prochain son. Merci beaucoup Héloïse Nice de nous avoir parlé de ton savoir-faire exceptionnel. It Anita, tout de suite sur Radio Pulse avec le morceau The World Last Kryptonaire. C'était le morceau It It Anita. Non, je ne me suis pas endormi à l'antenne. Nous sommes toujours à Saint-Sainery. Nous sommes toujours à côté de la Mystery Machine, dans un petit jardin. C'est assez exceptionnel. Saint-Sainery pour le Mystery Machine Summer Tour. Et nous venons d'accueillir à l'instant Camille Grouard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors, même question que pour tout le monde. Est-ce que tu es giroise?
Non.
Ah,
je suis alençonnaise.
On va bien en trouver. Tu es éleveuse de chèvres et tu fabriques du fromage bio. bio ?
Oui, c'est ça. Je suis éleveuse de chèvres sur la commune depuis 2021.
Combien de chèvres tu élèves ?
35.
35 chèvres ?
Oh, wow.
Ça se balade où, tes chèvres ?
Ça se balade au lieu-dit Le Massacre. Sur 10 hectares de prairie.
10 hectares, mais c'est énorme.
Oui, c'est bien pour les chèvres.
Ça veut dire que toi aussi, tu te balades pas mal ?
Plus les chèvres que moi, mais moi, je me balade pour faire des clôtures et des parcs.
Et vous êtes toute seule à gérer les 35 chèvres ?
Oui.
Waouh.
35 chèvres. Mais du coup, tu les as eues comment, ces 35 chèvres ?
J'ai acheté des chevrettes en 2020 pour qu'elles grandissent tranquillement chez moi. Et après, du coup, elles sont devenues chèvres, elles ont fait des bébés et elles font du fromage, du lait. Je fais du fromage.
T'as toujours voulu élever des chèvres ?
J'ai toujours voulu...
En fait, je me demande comment on devient éleveuse de chèvres.
Je suis petite fille d'agriculteur, donc j'ai toujours voulu devenir plutôt paysanne. Après, les chèvres, j'ai toujours eu des chèvres, donc... Un peu le prolongement.
Quand on pense élevage de chèvres, j'ai toujours un peu le côté proche de la nature, apaisant, presque spirituel. Est-ce que toi tu ressens ça ou alors il y a quand même des côtés un petit peu durs ?
Bah, faut travailler quand même beaucoup pour peu de revenus, donc voilà, c'est plutôt dur que spirituel. C'est apaisant de travailler avec les animaux, ça c'est sûr. C'est un boulot tous les jours, quoi. Donc c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut être présent, quoi. Après, voilà, c'est plutôt. Je vois pas le côté spirituel, c'est plus l'apaisement, quoi.
Alors, je vais chez Camille, je la vois pas souvent, en fait, dans un relax.
C'est ça.
Et justement, c'est quoi une journée type ? Quelles sont les spécificités de votre élevage et de la fabrication du fromage ?
Alors, en plus, j'ai un peu deux, voire trois métiers, voire quatre métiers en un. Du coup, j'ai donc la ferme avec les chèvres. Donc, le matin, je trais vers 9h, pendant une heure à peu près. Après, mon lait part en fromagerie. Il commence à fermenter juste après la traite. Et je transforme mon lait tous les jours en fromage, quoi. Après, journée type, il n'y en a pas vraiment, parce que tous les jours, ça diffère. Et il faut transformer le fromage, il faut le vendre, il faut le livrer. Enfin, voilà, il y a plein de facettes. Il faut faire tout l'administratif aussi. Et j'ai des chambres d'hôtes également, donc du coup, j'accueille aussi des visiteurs à la ferme.
Et pour tout ça, tu es toute seule ?
Oui.
Comment on s'organise avec un emploi du temps aussi chargé ?
Travail, je sais pas.
Super Camille.
Non,
super
Camille.
Il faut travailler tout simplement.
C'est ça.
Ton fromage, il est bio ?
Oui, c'est ça. Je suis agriculture biologique.
Ça implique quoi comme du
coup ? Ça implique de respecter un cahier des charges au niveau de l'alimentation, du bien-être animal, par exemple la surface de pâturage. Le pâturage est obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'élevages de chèvres. Il y a aussi l'alimentation des chèvres, voilà, le nombre de mètres carrés dans le bâtiment, voilà, tout un tas de choses.
Et ce fromage de chèvre, vous le vendez à votre ferme ou vous faites les marchés ou...
Oui, je le vends tous les samedis matin à la ferme, de 10h à midi, j'ai un magasin à la ferme. Après, je vends sur des marchés, je fais encore un marché une semaine sur deux à Beaumont-sur-Sarthe, petit marché de producteurs. Et puis, on a ouvert un magasin associatif à Saint-Pierre-des-Nîmes pour rassembler plusieurs producteurs et créateurs locaux pour vendre nos produits. Et puis après, je fais des livraisons dans des épiceries, des restaurants.
D'accord. Et ce fromage de chèvre, est-ce que vous déclinez, enfin, il y a une déclinaison ? Est-ce qu'il y a fromage de chèvre avec des herbes, des fleurs
Oui, oui, il y a plusieurs gammes. Alors,
ça salive un peu.
Plutôt pas mal, ouais.
On est tous addicts.
C'est vrai, bah, tant mieux.
Oui, je m'imagine bien.
Oui, oui, donc oui, il y a plusieurs gammes, des natures, du frais jusqu'au sec, et puis après, effectivement, des aromates, ail et fines herbes, brochette, enfin voilà. Standard, mon petit dernier, c'est le crottin à la figue.
Crottin à la figue. Tu le dégustes, ça doit être trop bien.
Bah, c'est là avec la confiture de figue, donc ça fait du sucré salé, c'est plutôt pas mal.
Sur une belle tartine de pain, c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu, toi ? À quel moment t'as eu tes chèvres et tu t'es dit je vais faire du fromage ? Ou alors t'as voulu faire du fromage, donc t'as pris des chèvres ? Dans quel sens ? Je sais pas si la question est claire.
J'ai voulu devenir agricultrice et j'ai acheté des chèvres. Et je me suis dit que je ferais des chèvres et du fromage.
Ça met combien de temps à se faire du fromage ?
Alors 24 heures, le lait caille, fermente et caille sur 24 heures. Après je moule, donc je moule mon lait de la veille, quoi, tous les jours. Et après, je le laisse égoutter, je le retourne, je le laisse égoutter, salé pendant 4 jours à peu près, quoi. Donc un fromage frais, 4 jours.
4 jours. Et ça veut dire que toi qui fais ce boulot-là toute seule, alors, par an, combien est-ce que tu crées de fromage ?
Je fais environ entre 35 et 50 fromages par jour sur 250 ah oui. jours par an.
Alors oula, va falloir calculer.
Voilà. Et vous les vendez tous les jours, les 30-50 ou
Je les vends le samedi matin principalement sur des livraisons d'AMAP ou de commerce ou de restaurant. Quoi. Voilà. Mais pas forcément tous les jours.
Et en ce cas, on vous a déjà demandé une spécificité en fromage de chèvre
On me demande de la tome. J'en ai fait un peu cette année, mais ça demande beaucoup de lait. Et du coup, comme j'ai pas beaucoup de lait, c'est pas un produit qui est très très rentable. Donc, je fais pas trop de tomes. J'en ai fait un peu. Voilà. Et non, on me demande pas. Je vais essayer de développer un nouveau produit peut-être l'année prochaine. Surprise. Okay.
Comment on s'occupe des chèvres?
Comment on s'occupe des chèvres? Bon, on leur donne à boire, à manger, on leur fait
bisous.
On les caresse.
Il y a des comptines ou pas?
On les gratte.
Est-ce qu'on peut dormir comptines. Avec elles
on y pense, l'insolite là. Dans le dernier petit délire, c'était une baignoire au lait de chèvre. On disait qu'on allait vendre des bains au lait de chèvre.
Ça peut marcher bon ça?
Bah, je sais pas.
Si tu veux, on passe.
Je pense qu'il y a moyen de faire une légende là-dessus.
Ouais, il y a bien la vinothérapie.
Oui, c'est ça. Si tu veux, on passe le message. Et s'il y a des gens intéressés, tu prépares une baignoire.
Je ferai plus de fromage du coup.
T'achètes 35 baignoires et tu fais du four.
Ça
sera peut-être plus rentable.
Ouais, c'est ça. Alors, mes chèvres, j'ai des chèvres des fossés. Du coup, j'ai deux races de chèvres qui étaient des races menacées. Donc, c'est de la sauvegarde de race. Donc, j'ai les chèvres des fossés et les poitevines. Et donc, la fossée, elle produit 1 litre de lait en moyenne par jour. Et la poitevine, non, c'est pas beaucoup.
Okay.
C'est plutôt très peu. Et la poitevine, elle produit 3 à 4 litres. Quoi. Mais chez moi, on est plutôt une moyenne d'un litre sur toutes les chèvres. Quoi.
Toutes les chèvres font 1 litre de lait?
Ouais, environ. Environ.
Et on passe trop de temps à regarder le paysage.
C'est ça. C'est pas du tout.
Ça oublie de bosser.
Et pour faire perdurer un peu ce métier, est-ce que vous avez déjà pensé à faire des salons
Non, alors j'ai pas ça. Par contre, j'ai pas le temps du tout.
Okay.
On peut comprendre.
Non, mais c'est vrai, l'association des chefs des fossés fait plein de salons et nous demande d'intervenir. Mais alors, moi, toute seule, c'est pas possible. Je peux pas être au four et au moulin, donc je peux pas quitter la ferme, quoi.
C'est sûr. Donc, tu parlais de la chèvre des fossés. Mm-hmm. C'est l'une des races de chèvres que tu as. Est-ce que tu en as d'autres?
J'ai la chèvre poitevine également. C'est deux races plutôt locales. La chef des fossés, c'est Bretonne, Normandie et Poitevine, Poitou-Charentes.
Est-ce que des fois, elles se frappent un peu entre elles? Est-ce qu'il peut y avoir des tensions entre ces deux races?
Oui, oui, il y a un peu de conflit. Il y a une hiérarchie dans le troupeau. Donc, quand il y en a une qui n'est pas contente et qui est dominante, elle le fait savoir aux autres. Quoi. Donc, elle dirige son petit troupeau.
Mais du coup, en plus, tu as un métier de médiateur quelque part?
Non, elle se débrouille entre elles. Justement, tu n'interviens pas. Elle se débrouille.
Mais du coup, est-ce que le goût diffère entre les deux races ou pas du tout?
Alors, mon lait est mélangé. Donc, non, pour le coup, le lait est plus riche que sur des chèvres alpines ou des chèvres saanennes qui sont plutôt connues pour les laitières qui font 8 litres par jour par exemple. Mm-hmm. Donc là le lait est beaucoup plus riche et du coup il est censé être meilleur.
Je suis sûr qu'il est meilleur.
Ouais.
Merci beaucoup Camille, d'avoir répondu à nos questions sur les chèvres et sur ton fromage bio que tu fabriques.
Merci
beaucoup. On a parlé chèvres, on va maintenant parler poissons avec Frédéric Friot. Comment est-ce que tu vas Frédéric?
Très bien, merci.
Est-ce que toi tu es giroise?
Alors, oui, je me considère comme giroise.
Moi, je vous considère tous comme girois.
Ouais, moi, je suis d'accord aussi.
Je suis née à Alençon, mais parce qu'il n'y avait pas de maternité à Saint-Sénery.
Ah oui, oui, oui. Et tu es présidente d'une association de pêche. Oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette association?
APPMA, les pêcheurs de Saint-Sénery.
Tout simplement.
Tout simplement, voilà.
Ça représente combien de pêcheurs?
Entre 120 et 150.
Parce que c'est vrai que Saint-Sénery, du coup, est bordé par la Sarthe. 150 pêcheurs?
Oui.
Mais c'est énorme.
Alors, y compris les cartes journalières.
C'est-à-dire?
Mais tous les pêcheurs ne sont pas de Saint-Sénery, malheureusement.
Ah.
Voilà. Donc il y a des gens, il y avait même quelqu'un qui habitait dans l'Oise, mais qui venait pour notre parcours truite à Saint-Sénery.
Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on peut pêcher à Saint-Sénery?
Alors, on a deux styles de pêche. On a un parcours seconde catégorie, c'est-à-dire tout ce qui est carnassier, poisson blanc de fourrage. Ce qu'on appelle de fourrage, c'est ce qui sert à manger pour les autres poissons. Et un parcours truite en première catégorie sur le sarton.
Mais quand tu dis parcours, qu'est-ce que ça veut dire en fait?
En fait, ce sont des mètres linéaires.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est un territoire.
Et par exemple, à Saint-Sénery, ce parcours, il va de où à où?
Alors, le parcours première catégorie, il va de la route de Saint-Pierre-des-Bas.
De là à là-bas.
Voilà. Venez à Saint-Sénery pour voir.
Le parcours va pour la première catégorie de la route de Saint-Pierre-Denis à la Ferrière-Beauchard jusqu'à l'embouchure du Sarton quand il rejoint la Sarthe. Ça, c'est de la première catégorie. Et la seconde catégorie vient du moulin de Gouillet au niveau du Haras du But, là, sur la route d'Alençon, okay. jusqu'à l'embouchure.
Et quand voilà. tu dis première et seconde catégorie, c'est quoi ces petites spécificités de catégorie?
Alors, c'est la première catégorie, c'est beaucoup plus torrentiel, okay. Avec donc des truites, okay. essentiellement, du saumon de fontaine, un petit peu. Et donc la seconde catégorie, c'est tout ce qui est cendre, brochet, carpe, et puis le poisson, goujon, tout ça. Et on retrouve actuellement des espèces qu'on ne voyait pratiquement plus à l'époque où la rivière n'était plus tellement pêchable dans les années 70-80.
Comment ça se faisait?
La pollution.
Ok.
Et avec la mise en place des usines, des eaux dans les petits villages tels que le nôtre, à Alençon, ils ont redimensionné aussi. On a vu le changement d'écosystème se modifier et une amélioration très notable.
Donc
voilà.
Malgré les 150 pêcheurs, il y a plus de poissons à Saint-Sennery.
Oui.
J'ai un peu envie de dire que vous n'êtes pas très fort du coup, des mauvais pêcheurs.
Non, il y en a qui les remettent à l'eau.
Le oui. pêcheur est contemplatif, hein, normalement.
C'est vrai, à part certains malheureusement qui sont qui eux ne respectent pas forcément la loi.
Oui, mais... Ah oui, parce que dans la loi, vous êtes obligé de relâcher le poisson.
Non, certains. Il y a certains poissons tels que le brochet. Il y a des périodes de pêche et des tailles à respecter pour justement permettre aux poissons de se reproduire. Mais sinon, on fait ce qu'on veut. Mais justement, ces poissons tels que la truite, le brochet, il y en a qui ils ont le droit à 6 truites par jour. Mm-hmm. Ils vont aller les planquer dans la voiture pour revenir. Et...
Oui, à ce moment-là.
Voilà. Ouais, il y en a certains, malheureusement, c'est ça, mais ce n'est pas forcément des pêcheurs locaux non plus.
Oui, d'accord. Oui, parce que s'ils font attention à leur territoire, ils font attention aussi aux truites qu'ils pêchent. Comment justement vous faites pour un petit peu faire la police de tous ces pêcheurs-là? Est-ce que vous le faites ou alors est-ce que vous faites juste confiance aux personnes?
On essaie, on a un garde-pêche, mais il n'a pas le droit de verbaliser. Il a le droit de mettre des avertissements,
ouais, voilà.
Mais il ne peut pas dire c'est 150 euros par exemple.
Oui, mais il peut dénoncer ou pas, non?
Alors s'il y a un gros truc, oui, il okay. peut en faire remonter à la fédération à la police de l'eau.
Parce que si on veut pêcher à Saint-Sennery, est-ce qu'on doit avoir une autorisation de pêche? On ne peut pas y aller comme ça, moi, avec ma canne et hop.
Est-ce que c'est une licence ou quelque chose comme ça?
Alors, c'est une carte qui vous autorise, que vous payez à l'année, mm-hmm. avec plusieurs tarifs, selon que vous pêchez essentiellement dans l'Orne, ou ici, on est tenu de prendre les timbres de réciprocité qui donnent droit à 70, je crois, maintenant, départements.
Ouais, ça doit être ça. Hein,
qui est pêcheur, Richard. et ici, comme on est à cheval sur 3 départements, on serait tout de suite dans l'illégalité si on n'avait pas ce fameux thème de réciprocité. Voilà.
Est-ce que tu as des petits lieux secrets à nous dévoiler où ça mord un petit peu plus
sur eux? Le dis pas.
C'est comme les champignons, ça se révèle pas.
je crois que personne nous écoute, là, tu peux y aller.
On n'est que nous 5, là.
D'accord. Ici...
D'accord.
À Saint-Sennery.
Ah ben là, derrière vous, il y a beaucoup d'ablettes, il y a malheureusement du silure aussi.
Ah, c'est un poisson qui est mauvais celui-là?
Il prend beaucoup de place. Il grandit, et c'est comme dans un aquarium, si vous mettez un poisson, il va grossir. Si vous en mettez 10, il va grossir, mais moins, il ne va pas se reproduire de la même manière. Donc là, le silure, il prend de la place.
Oui, c'est un peu comme l'écueil.
C'est ça.
Qui grandissent.
Oh. Tatiana, tu m'impressionnes.
J'en ai chez moi des collègues.
On a vu sur les bords de la... C'est la Sarthe qui passe.
Oui.
Oui, ouais. Sur les bords de la Sarthe, il y a à la fois des personnes, des familles, mais il peut y avoir des enfants, des personnes âgées. C'est fou comment la pêche, en fait, ça inclut tous les âges.
Oui.
Vous, dans votre club, vous ressentez vraiment ce côté où il y a de tout âge?
Alors, je dois dire que nous, on a quand même une population vieillissante. On essaie d'attirer effectivement des jeunes. Là, vous en avez un juste là qui a intégré l'association justement au niveau du bureau. On essaie juste de passer le flambeau parce que quand on réempoissonne, c'est physique.
Réempoissonne.
Oui, on met tous les ans, on met 4 fois des truites sur le parcours. Okay. Et donc il y a un pisciculteur qui nous amène le poisson. On les met dans des bassines. Après, on remonte le territoire et on déverse un petit peu par paquet de 3 truites tout le long du parcours.
Mais c'est à quel moment ça ?
Ça, c'est de mars à mai.
Et pourquoi il faut retruiter ? Non, c'est quoi le